الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. On reprend la suite du cours de l'Asr, inshallah. On a parlé de deux sectes principales, Al-Qadariya, dedans on a parlé de Al-Jabriya et des Soufis, puis on a parlé des Khawarij. Il faut savoir que les Khawarij contemporains, pour finir la partie sur les Khawarij, ils ont pris plusieurs formes. Il y a les maîtres penseurs et il y a ceux qui passent à l'acte. Et parmi un des plus grands maîtres penseurs et théoriciens de ce groupe égaré de cette époque, il y a Sayyid Qutb, qui est à la base un lettré égyptien qui était très ancré sur la littérature arabe, qui a eu une période où il était communiste, trotskiste, puis il a même eu une période où il était mulhid, athée, puis il a joint la confrérie des frères musulmans. Quand il a joint la confrérie des frères musulmans, il a collé son expérience communiste, révolutionnaire, trotskiste à l'islam. Et il a jeté l'opprobre sur l'ensemble de la communauté musulmane et a légiféré les actions violentes dans les pays musulmans. C'est comme ça que ça a commencé le terrorisme moderne. Par Sayyid Qutb. Avant, ça n'existait pas. C'est eux qui ont commencé en Égypte à faire des bombes, à jeter de l'acide sur les gens dans la rue, des choses comme ça. Puis, c'est plus tard, beaucoup plus tard, que cela a atteint le monde occidental. Mais dans le monde musulman, ils avaient déjà commencé depuis un moment. Sayyid Qutb est d'ailleurs celui qui a considéré toutes les mosquées comme des temples d'adoration du temps pré-islamique. Et il a jugé la communauté dans son ensemble étant sur l'époque pré-islamique. Il a beaucoup de dérives. Il a des dérives dans Soufia, il croit dans Wahdat al-Wujud. Il a des dérives dans sa critique de certains prophètes, comme Moussa alayhi salam, son manque de respect envers les prophètes. Il a des dérives dans son manque de respect envers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en fait, c'est un bon lien entre le Khawarij et les Chiites, parce qu'en fait, il est avec les deux. Il est avec les deux. D'ailleurs, il y a des timbres et des pièces et des rues à l'effigie de Sayyid Qutb en Iran. Parce qu'il a insulté certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est d'ailleurs l'idéologue de tous les groupes tekfiri qui rendent mécréants les musulmans sans droit et les groupes extrémistes que l'on connaît à cette époque. Ils sont tous imprégnés des livres de Sayyid Qutb. Même certains fondateurs d'autres groupes tekfiri, eux-mêmes, ils ont reconnu avoir été les élèves directs ou intermédiaires par intermédiaire de Sayyid Qutb. Comme par exemple Al-Maqdisi, qui est un maître penseur de ce mouvement tekfiri, des Khawarij de cette époque, puis Al-Jawlani, etc., comme ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, cette secte des frères musulmans, aussi, elle lie avec plusieurs de ses égarements. D'un côté, le fondateur et beaucoup de membres d'entre eux ont une partie de soufisme et ils agréent les dérives de certains sectes dans l'adoration des tombes. D'un autre côté, ils sont là à passer leur vie à critiquer les dirigeants musulmans et à appeler le peuple à se soulever contre eux. Et quand eux, ils sont au pouvoir et qu'ils font les mêmes choses qu'ils critiquaient, eux, ils ont droit. Quand il s'agit des gouverneurs autres qu'eux, ils les rendent mécréants. Mais eux, non, ils ont le droit de le faire. C'est pour cela que beaucoup de savants considèrent que le groupe des Ikhwan al-Muslimin est en réalité affilié sur certaines croyances au groupe des Khawarij. Du fait qu'ils sortent et qu'ils se révoltent contre les gouverneurs musulmans, qu'ils appellent aux révolutions et aux révoltes et à faire couler le sang d'innocents, et dans leurs procédés aussi, et du fait qu'ils rendent mécréants aussi pour justifier leurs actes. Pour justifier leurs actes, ils rendent mécréants les gouverneurs musulmans qui les dirigent. Et d'autres dérives qui sont connues pour tous ceux qui ont étudié cette confrérie et ce groupe. Parmi les sectes qui sont sorties des gens de la Sunna et qui font partie des sectes égarées, il y a les chiites, les shi'a. Shi'a, en langue arabe, littéralement, ça veut dire ceux qui portent secours ou qui suivent. Wa inna min shi'atihi la Ibrahim. C'est dans ce sens-là. Eux, ils se considèrent comme ceux qui ont porté secours à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais en réalité, ce sont les premiers à insulter la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car la famille d'un homme, elle commence par qui? Répondez-moi. Est-ce que la femme de l'homme, son épouse, c'est sa famille ou c'est pas sa famille? Comment ils fondent une famille? Ça commence par son, avec une épouse, puis il y a des enfants derrière. Alors les chiites qui prétendent porter secours et aimer la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils insultent les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils les traitent de fornicatrices. Donc en réalité, ils ne portent secours qu'à leur passion, et non pas à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les chiites, on peut en faire long, on va faire un résumé bien sûr, ils prétendent que Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, c'est l'héritier légitime du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il devrait être pour eux le calife des musulmans. Et en cela, ils ont menti. Car premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi Abu Bakr comme compagnon. Et tout le monde connaissait la valeur d'Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, de vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne se considérait mieux que lui. Personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant la maladie de sa mort, il n'a accepté que Abu Bakr qui préside la prière. Une fois, il a entendu la voix d'Omar présider, il était malade, la tête bandée. Il a sorti la tête en pleine prière. Il a dit, Allah et son messager ne veulent que Abu Bakr. Allah et son messager ne veulent que Abu Bakr. Allah et son messager ne veulent que Abu Bakr. Donc, qui préside la prière des musulmans? C'est toujours leur dirigeant. D'ailleurs, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoyait des armées, c'est le dirigeant de l'armée qui présidait la prière. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam déjà a montré, mais il n'a pas imposé en fait. Il a montré qui Allah et son prophète aimeraient qu'il soit le dirigeant des musulmans après lui. Mais il n'a pas voulu imposer aux musulmans. Il les a laissés libres de se mettre d'accord, tout en leur donnant une consigne non obligatoire clair, mais en vérité, c'est ce qu'Allah voulait. Et c'est ce qui s'est passé, alhamdoulilah. Donc, les musulmans, pendant plusieurs jours, il y avait plusieurs groupes qui faisaient la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, groupe par groupe, groupe par groupe. Donc, tout le monde voulait prier sur lui. Ça a pris du temps. Et pendant ce temps-là, les nouveaux convertis de la péninsule arabique, ils ont entendu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est mort. Ils ont commencé à apostasier ou à rejeter l'islam. La fitna, la tentation a apparu. Donc rapidement les compagnons ils se sont dit il faut qu'on établisse l'unité de la communauté, il faut qu'on désigne un dirigeant, un successeur au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils se sont mis d'accord sur Abu Bakr al-Siddiq. Et Ali ibn Abi Talib et toute la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait acte d'allégeance à Abu Bakr al-Siddiq avec satisfaction. Et Ali radiallahu anhu, il a fait acte d'allégeance à Omar après Abu Bakr. Et il a fait acte d'allégeance à Uthman après Omar. Donc ceux qui prétendent défendre Ali et sa famille, en vérité, ils ont trompé Ali, radiallahu anhu, parce qu'ils n'ont pas suivi sa voie. Ils ont plutôt suivi la voie de Abdullah ibn Saba, al-Yahoudi, al-Khariji, qui a été le premier à soulever les gens contre Uthman ibn Affan, et le premier à donner des mensonges sur Ali, radiallahu anhu, à lui attribuer des qualificatifs de divinité. Ali radiallahu anhu, il a voulu l'attraper et le brûler à cause de cette parole. Mais ils lui ont dit qu'il n'y a que le créateur du feu qui châtie par le feu. Donc, les chiites, ils ont rendu mécréant la majorité des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses épouses. Sauf un petit nombre, 13. Sur les 100 et quelques mille compagnons, pour eux, il n'y a que 13 croyants. Et ils ont prétendu que les imams, pour eux les imams, ce sont les descendants de Ali, radiallahu anhu. Ali, al-Hassan, al-Hussein et leurs descendants. Après, comme ils sont plusieurs sectes, il y en a qui s'arrêtent à 12, il y en a qui se sont arrêtés avant, donc après ils se sont divisés même entre eux. En fait, ils se sont contredits. Les chiites, ils disent, c'est pas possible qu'Allah laisse la communauté sans un imam. Alors chaque descendant d'Ali avait un enfant, mais le 11e, il n'a pas eu de garçon. Ils se sont retrouvés avec un problème dans leur croyance. Allah, il les a dévoilés qu'ils sont égarés. Il n'y a pas de garçon. Comment ils vont faire? Ils ont inventé une histoire. Ils ont inventé une personne comme quoi il y a un garçon qui s'est caché et qui sortira à la fin des temps, et c'est lui le Mehdi al-Muntadhar. Voilà, quand des gens sont égarés, comment ils jouent avec la religion. Quelle est leur croyance par rapport au Coran? Vous savez que les chiites, ils ne croient pas dans le Coran dans lequel on croit nous? Vous le saviez ça? Ils disent que le Coran qu'on a nous, ce n'est pas le Coran. En disant ça, ils rejettent le Coran. Car Allah dit, « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. » C'est nous qui avons révélé, descendu le rappel, et c'est nous qui nous chargeons de le protéger. Non, eux, ils disent non. Il y a 2/3 du Coran qui ne sont pas là, ils sont perdus. Ils disent. Ça, c'est un. 2, la partie du Coran qui reste pour eux, la partie, mais en vérité, c'est tout le Coran, ils l'interprètent de leur manière. Chaque verset qui n'a rien à voir, ils disent ça veut dire l'imam, ça veut dire les 12 imams, ça veut dire le wilaya, tout veut dire les 12 imams pour eux. Même des paroles qui n'ont rien à voir. Et ils ont traité Abu Bakr et Omar des 2 statues de Quraysh. Et ils les maudissent. Ils invoquent la malédiction d'Allah sur eux. Ils ont même un jour une fête où ils appellent cette fête Aïcha Finnar. Aïcha est en enfer. Ils font un grand gâteau, ils chantent Aïcha est en enfer, Aïcha est en enfer. Ils font chanter les enfants, ils coupent le gâteau avec des ballons partout. Non, on verra qui sera en enfer. Et ce ne sera sûrement pas Aïcha radiallahu anha, qui est une des 5 meilleures femmes que la terre elle ait portée, qui était la personne la plus aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était la femme qu'Allah, il a lavé son honneur dans le Coran. Et ils sont allés plus loin. Ils ont dit que leurs 12 imams, ils sont infaillibles. Ils peuvent venir avec des lois en dehors du Coran et de la Sunna. Ils inventent des lois, ils abrogent le Coran, ils abrogent la Sunna, ils font ce qu'ils veulent. Ça a commencé comme ça, mais ce ne s'est pas arrêté là. Ça a été plus loin. Ils disent que leurs imams, ils dirigent l'univers. Qu'ils connaissent ce qu'il y a dans les tablettes gardées. Qu'ils décident qu'ils vont entrer au paradis et en enfer. Alors, ils se sont mis à adorer les imams en dehors d'Allah. Ils ont construit des mausolées et des coupoles au-dessus de leurs tombeaux. Et ils tournent autour. Comme nous, on tourne autour de la Kaaba, et ils les invoquent, et quand ils s'assoient, ils disent Bismillah ou Ya Allah, ils disent Ya Hussein, Ya Ali, Ya Hussein, voilà. Comme les soufis font, ils tournent autour de leur tombe, et au lieu de dire Ya Allah, ils disent Ya Abdel Qadir al-Jilani, Ya Sheikh Abdel Qadir al-Jilani, au lieu de dire Ya Allah ou Bismillah. Non. Et ces chiites-là, ils se sont même eux-mêmes divisés en plusieurs factions. Parmi eux, il y a Zaydiya. Parmi eux, il y a Al-Ithna Ashariya, les duos des imams. C'est ceux d'Iran. Parmi eux, il y a Al-Ismailiya. C'est les Indiens avec les chapeaux là, blancs et dorés. Al-Buhra. Al-Ismailiya. Ils existent aussi au Yémen. Parmi eux, il y a Al-Fatimiya. Parmi eux, il y a Al-Qaramita. Et tous ces groupes-là, ils ont eu des sous-groupes et des milliers de groupes et des centaines de groupes. C'est ça la voie de l'égarement et de l'innovation. Tous les jours, il y a d'autres innovations qui sortent. Et ça, c'est comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit « فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ » Alors s'ils croient à cela même à quoi vous avez cru ou vous croyez, ils seront certainement sur la bonne voie. Là, il parle de qui? S'ils croient, à quoi vous croyez? Ils seront certainement sur la bonne voie. C'est qui vous croyez ici? C'est les Sahaba, radiallahu anhum. Donc Allah, il a ordonné d'avoir la même croyance que les Sahaba, radiallahu anhum. Allah, il les a agréés. Il les a agréés dans le Coran, dans leur vie avant leur mort. Et les savants disent, celui qui insulte les Sahaba et qui les rend mécréants, il n'a aucune part dans l'islam. Donc, Allah Ta'ala dit dans le sens, alors s'ils croient à cela même à quoi vous croyez, ils seront certainement sur la bonne voie. Et s'ils s'en détournent, ils seront certes dans le schisme, c'est-à-dire dans la division. Et effectivement, toutes ces sectes, chacune, elle fait des enfants d'autres sectes, et ils sont des centaines de sectes. Par conséquent, celui qui délaisse la vérité se verra éprouvé par la fausseté, par la déviance, et par la désunion. Et cela n'aboutira à aucun avantage, mais à la perdition. Qu'Allah nous en préserve, subhanahu wa ta'ala. Donc, Si on résume la croyance des chiites, ils ne croient pas dans le Coran qu'on a. Ce Coran qui nous a été transmis, vous connaissez la chaîne de transmission du Coran? Un des transmetteurs, c'est Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Donc, eux qui disent qu'ils sont ceux qui soutiennent Ali, c'est comme s'ils disent Ali c'est un menteur, il nous a caché une partie du Coran. Toutes les chaînes de transmission du Coran, elles finissent Ali ibn Abi Talib, en plus d'autres compagnons. Mais lui, il est dedans. Radiallahu anhu. Donc, ils ne croient pas dans le même Coran que nous on croit. Ils insultent les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons et ils les rendent mécréants. Ils adorent les imams en dehors d'Allah. Et ils leur donnent le pouvoir de faire des nouvelles règles comme ils veulent. Et ils ont la taqiyya. C'est quoi la taqiyya? Ça, ils l'ont aussi, les nouveaux khawarij. C'est qu'il dit le contraire de ce qu'ils pensent. Ils disent on est toujours en minorité, on est en faiblesse, donc on est obligé de montrer le contraire. Ils disent chez les gens de la sunna, non, nous on n'insulte pas les compagnons, jamais. Pendant qu'il dit ça dans son cœur, il le maudit. Pour eux, le mensonge c'est un moyen d'adorer Allah. Quand ils mentent à quelqu'un de la sunna, ils ont des hasanat. Qu'Allah les guide et nous préserve de leur mal. Il préserve les musulmans de leur égarement. Non. Autre chose, les paroles qu'ils attribuent à leurs imams. Elles sont sans aucune vérification, sans chaîne de transmission. Ils n'ont pas, par exemple, nous on a la science de la chaîne de transmission. On vérifie l'authenticité d'une parole. Eux non, n'importe quel gars de chez eux, il prend un livre, il dit « L'imam Ja'far a dit, sautez du toit de la maison. » Pour eux c'est bon. L'imam Ja'far a dit, il répète, « L'imam Ja'far a dit, sautez du toit de la maison. » T'as aucune chaîne de transmission ou vérification, aucune. Donc ils disent tout ce qu'ils veulent. Et il a fili un de leurs imams. Voilà. Voilà comment ça se passe leur religion. Donc il ne faudra pas s'étonner qu'ils soient aussi égarés que ça. Donc ceux qui par ignorance, ils disent non, on est pareil, on a le même Coran, on est de la même religion, c'est qu'ils ne connaissent pas la religion sur laquelle ils sont. Ils ne suivent pas le Coran qu'on suit. Et ils ne suivent pas la religion que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a laissée. Certains d'entre eux ont même dit, Djibril il s'est trompé. Ou alors il y en a, ils ont même dit, Djibril il a trahi. T'imagines ce qu'il dit sur l'ange Jibril alayhi salam, le chef des anges. Allah il l'appelle l'Amin. Eux ils disent Jibril il l'a trahi. Il fallait qu'il descende le Coran sur Ali, il l'a donné sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà un résumé. En vérité il y a des livres et des livres qui sont écrits sur ça. Il y a même un savant chiite qui les a dénoncés, qui a dénoncé leurs égarements. Il a fait un livre et il l'a appelé Mon témoignage pour Allah, puis pour l'histoire. Il est même traduit en français, ce livre-là. Il existe en arabe et il est traduit en français. Subhanallah, les égarements. C'est un témoignage, lui, c'est un savant des chiites irakiens qui raconte tous les égarements qu'il y a dans leurs croyances et dans leurs livres. Et il ramène les pages et les références. Subhanallah, comment c'est incroyable. Celui qui lit ça, comment il peut encore croire que c'est une religion, que façon de pratiquer c'est une religion. Des choses incroyables, des mensonges sur Allah et son prophète. Parmi les choses, qu'est-ce qu'ils disent? Celui qui pratique la mut'a c'est le mariage temporaire, le mut'a. Ils disent celui qui pratique la mut'a une fois, il atteint le degré des véridiques. Celui qui pratique la mut'a deux fois, il atteint je ne sais plus quel degré. Celui qui pratique la mut'a trois fois, il atteint mon degré. Ils attribuent cette parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent celui qui fornique trois fois, il est comme le prophète. Allahu Akbar. Vous imaginez? Il va, il se marie avec une femme une heure. Hop, tiens, je te donne l'argent. De la prostitution, quoi. Tiens, prends ta dot, une heure. Pour lui, il fait ça trois fois, il a le degré du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Musta'an. Et des égarements comme ça, il y en a plein. Une histoire que lui, il raconte, un ami à lui, il a accueilli le Khomeini chez lui. Et le Khomeini, il a été abusé d'une petite fille, un bébé, avec l'accord du père. Et il revient le matin, oui, c'est un bébé, j'ai pas pu faire ce que je voulais, mais voilà. Tout ça, c'est dans les témoignages. Voilà leur religion à ces gens-là. Sallallahu alayhi wa sallam. Le dernier groupe dont on va parler aujourd'hui, c'est Al-Jahmiya. Al-Jahmiya fait référence à une personne qui s'appelle Al-Jahm ibn Safwan, qui fut l'élève d'Al-Ja'd ibn Dirham, qui lui-même fut l'élève de Talut, qui fut lui-même l'élève de l'Abid ibn al-A'sam al-Yahoudi, le juif. Ils sont donc tous, al-Jahmiya, les disciples des juifs. Concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-Jahmiya, ils disent qu'Allah il n'a ni nom ni attribut. Aucun nom, aucun attribut. Ils disent qu'Allah c'est une entité dépourvue de noms et d'attributs. Et ils disent que dire qu'Allah il a des noms et des attributs, c'est du shirk. C'est comme si on disait qu'il y a plusieurs divinités. C'est ce qu'ils prétendent, subhanallah, avec leur maudite ambiguïté. Alors on se demande ce qu'ils disent de leur propre personne, puisque l'un d'entre eux, il peut être qualifié de savant, de riche, d'artisan et de commerçant. Un individu peut posséder plusieurs attributs, cela induit-il qu'ils sont plusieurs personnes? Non. Il renie l'évidence, la multitude des noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala n'implique pas celle de la multitude des divinités. C'est pour cela que lorsque les polythéistes ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Ya Rahman, Ya Rahim » ils dirent « Celui-là prétend n'adorer qu'une seule divinité alors qu'il en adore plusieurs. » Puis Allah tabaraka wa ta'ala révéla à son prophète sallallahu alayhi wa sallam « قُلْ اِدْعُوا اللَّهَ وَاِدْعُوا الرَّحْمَانَ اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى » dit « Invoquez Allah » ou invoquez le tout miséricordieux, quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a les plus beaux noms. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont nombreux, et cela témoigne de son caractère parfait subhanahu wa ta'ala et immense. Et il n'indique pas une multitude de divinités comme ils affirment. Quant à une entité dépourvue de tout attribut, c'est comme si elle n'existait pas. Donc al-Jahmiya, ils adorent le néant, rien. Il est impossible qu'une chose qui ne possède aucun attribut puisse exister, même si elle ne détient que celui de l'existence. Parmi leurs ambiguïtés, c'est le fait que accorder des attributs à Allah implique une ressemblance aux créatures ou une similitude, car ces qualités existent aussi chez les créatures. Ce propos est sans effet et sans preuve, parce que les attributs du Créateur subhanahu wa ta'ala sont propres à lui. Et ceux des créatures leur sont propres à eux. Il n'y a donc aucune similitude entre les deux, même s'ils portent le même nom. Quand on dit Allah il a un visage, Allah il a une main, Allah il s'est établi sur le trône, ce n'est jamais comme une créature, d'une manière qui est appropriée à Allah subhanahu wa ta'ala. Concernant le destin et le Coran, les gens de la Jahmiya, ils ont ajouté à leur égarement dont les noms et les attributs d'Allah, Al-Jabr. La même croyance que le Jabriya qu'on a expliqué avant. La contrainte dans la prédestinée. Ils disent qu'on n'a pas le choix. Ils prétendent que le serviteur n'a aucune volonté propre, ni détermination, mais qu'il accomplit ses actes sous la contrainte. Ce qui signifie chez eux que s'il est châtié pour un péché, ce serait avec une injustice. Il ne le mériterait pas. Car ce n'est pas un acte délibéré selon eux. Mais il a été contraint de le faire, c'est ce qu'ils disent, qu'Allah soit élevé au-dessus de tout cela. Ils ont donc réuni la croyance de l'Jabr, la contrainte dans la prédestinée, avec le fait de renier les noms et les attributs d'Allah, et ils ont ajouté à cela une autre bid'a, bid'atul irja. Al-irja. Qu'est-ce que c'est al-irja? Al-irja, c'est le fait d'affirmer que les péchés ils n'ont pas d'incidence sur la foi, comme les bonnes actions n'ont pas d'incidence sur la foi. C'est le fait de dire que les actes n'ont rien à voir avec la foi, sont extérieurs à la foi. Et en plus de toutes ces innovations, donc le reniement des noms et des attributs d'Allah, le jabr dans la prédestinée, al-irja dans l'iman, en plus de tout cela, ils ont rajouté des ténèbres à leurs ténèbres en disant que le Coran il est créé, c'est pas la parole d'Allah. Et c'est eux d'ailleurs qui ont châtié l'imam Ahmed ibn Hanbal et qui ont voulu qu'ils disent que le Coran il est créé, mais il n'a pas accepté.
L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a composé ces vers, à peu près la traduction en français, bien sûr, on ne peut pas faire la même poésie en français. Il a dit, un J, puis un autre J, et ajoute-y un autre J, avec d'autres lettres comme modèle. Jabr et Irja et le J de Jahmiya. Médite sur la somme de ces lettres dans la balance et juge les auspices de celui qui en est atteint par son exclusion du cercle de la foi. C'est-à-dire, ils ont réuni Jabr, Jahmiya et Irja, 3J, et le 4e J est Jahannam, l'enfer. Donc, ils mériteront l'enfer. Les autres sectes qui sont liées au Jahmiya sont Al-Mu'tazila, Al-Asha'ira et Al-Maturidiyya. Les Mu'tazilites, les Ash'arites et les Maturidites. Al-Mu'tazila, ils sont liés à Al-Jahmiya, car dans les noms et les attributs et dans certains points, ils sont d'accord avec eux. Ils ont été appelés Mu'tazila, car leur imam était Wasil ibn Atta, qui était un élève de l'illustre tabi'i Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, l'éminent savant, le successeur des compagnons. Lorsqu'on demanda à Al-Hassan al-Basri, qu'en est-il de celui qui a accompli un grand péché, un péché majeur ? Il répondit par les propos que soutiennent les gens de la Sunna. C'est un croyant dont la foi est faible, croyant par sa foi et pécheur par sa grande transgression. Wasil ibn Atta n'a pas accepté cela. Il n'a pas été satisfait de cette réponse de Al-Hassan al-Basri. Alors, il se leva et il fit scission. I'tazala. C'est ça, il fit scission de l'assise de Al-Hassan al-Basri. Et il déclara, non, moi je pense qu'il n'est ni croyant, ni mécréant. Mais il se situe à une position entre les deux. Il se sépara ainsi de son cheikh, Al-Hassan al-Basri, et s'installa dans un coin de la mosquée. Et des individus parmi le rebut de la société acceptèrent sa parole. Tels sont les pécheurs de l'égarement. À chaque époque, il y a toujours de nombreuses personnes qui se rangent à leur côté. Ceci fait partie de la sagesse d'Allah pour éprouver ses serviteurs. Donc il a délaissé l'assemblée de Al-Hassan al-Basri, le cheikh des gens de la Sunna, alors que son assemblée était une assemblée de bien et de science, pour aller faire une assemblée d'imposteurs et d'égarements. Subhanallah. Et en toute époque, il y a des gens qui ressemblent à ça, qui éloignent les gens des assemblées des gens de science et qui réunissent les ignorants pour leur transmettre l'égarement et faire un groupe et une nouvelle secte. Dans toutes les époques, subhanallah, il y a des faibles d'esprit qui suivent les ignorants et les égarés et qui laissent les paroles des savants qui sont sur une lumière et une guidée. Donc depuis ce jour-là, le mouvement il a été appelé Al-Mu'tazila, ceux qui ont fait scission. Et en réalité, ils ont fait scission avec les gens de la Sunna, pas seulement avec Al-Hassan al-Basri. Donc, ils disent qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas d'attribut. Ils lui ont attribué des noms dépourvus de qualificatifs. Donc c'est la même chose que le Jahmiya, hein, juste de la philosophie en plus. Ils sont d'accord avec les Khawarij sur le statut de celui qui commet les grands péchés, les péchés majeurs. Ils disent qu'il ira en enfer éternel. Mais ils ont divergé sur leurs conditions dans ce bas monde, en disant qu'il se situe dans une station entre les deux, ni croyant ni mécréant. Alors que les Khawarij affirment eux qu'il est mécréant déjà en ce bas monde. Subhanallah. Est-il raisonnable qu'un homme, il soit ni croyant ni mécréant, alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit « Huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min » C'est lui qui vous a créé, parmi vous il y a mécréant et croyant. Il n'a pas dit que certains se situent dans une position entre les deux, mais est-ce qu'ils comprennent cela? Parmi ceux qui ont été touchés par le Jahmiya, il y a l'Asha'ira, les Ash'arites. L'Asha'ira, cela fait référence à Abu al-Hassan al-Ash'ari, qui était d'abord un Mu'tazili, puis Allah l'a privilégié de faire tawba, de comprendre leur fausseté. Un jour, il s'est levé au Jum'a au Mimbar, il a enlevé son vêtement, il a dit « Je laisse les Mu'tazila comme je laisse ce vêtement ». Mais il a été touché par la croyance d'une autre personne qui s'appelle Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab. Ce dernier, il n'affirme que sept qualités, sept attributs à Allah. Parce qu'il dit cela, ils sont acceptés par la raison. Tous les autres, on les rejette. Il les interprète. Mais Abul Hassan al-Ash'ari, Allah lui a fait grâce et l'a privilégié une nouvelle fois. Car il a fait tawba de cette croyance de l'Kullabiyya, d'Ibn Kullab. Et il adhéra au courant et à la croyance de l'imam Ahmad ibn Hanbal, l'imam des gens de la Sunna. Et il déclara, je dis ce qu'atteste l'imam des gens qui se sont réunis sur la Sunna, Ahmad ibn Hanbal, qu'Allah est au-dessus de son trône, qu'il a des mains et un visage. Il cite à ceci dans son livre intitulé « Al-Ibana an usuliddiyana ». Puis dans son deuxième recueil « Maqalatul Islamiyyin wa Ikhtilaful Musallin » où il dit suivre le courant de Ahmad ibn Hanbal, il subsista tout de même chez lui quelques erreurs. Mais dans la globalité, il a laissé le mouvement des Mu'tazili une première fois, puis des Kullabi une deuxième fois, ceux qui disent que Allah n'a que sept attributs. Alors que la majorité des élèves de Abul Hassan al-Ash'ari, ils sont restés sur la croyance d'Ibn Kullab, des Kullabiyya. Donc, ceux aujourd'hui qui se disent Ash'ari, en vérité, ils sont des Kullabiyya, ils ne sont pas Ash'ari. Car l'imam Abul Hassan al-Ash'ari, il a fait tawba, il s'est repenti de cette croyance. Donc, affilier cette tendance à son nom est une injustice. Il est plus juste de dire le mouvement de Al-Kullabiyya, non pas celui de Abu al-Hassan al-Ash'ari, car il s'est repenti. Et il a écrit cela dans son livre, Al-Ibana an Usul al-Diyana. Il cite clairement son retour et son adhésion à la voix des gens qui se sont réunis sur la Sunna, et en particulier celle de l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahumullah. Pour finir, il y a des livres références écrits sur toutes ces sectes. Parmi eux, الفرق بين الفرق de l'imam al-Baghdadi, un ancien, c'est pas le shaytan Abu Bakr al-Baghdadi, a'udhu billah. الملل والنحل de Muhammad Abdul Karim al-Shahrastani. الفصال في الملل والنحل de Ibn Hazm al-Andalusi. Et مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين de Abu al-Hassan al-Ash'ari. Tout ça, c'est des livres de référence qui détaille toutes ces sectes dont on vous a parlé et dans lesquelles vous pouvez trouver tous les détails. Bien sûr, c'est pour les arabophones. Pour finir, l'objectif de parler de tout cela, il est clair, c'est de connaître ces sectes pour connaître leurs dangers et s'en écarter et rester tous unis ensemble sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour gagner en ce monde et gagner dans l'au-delà le paradis éternel et le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, et faire partie du groupe sauvé, du groupe qui a l'aide d'Allah et son assistance en toute époque, qui, alhamdoulilah, sera victorieuse et présente en toute époque jusqu'à la fin des temps, qu'Allah nous compte tous parmi eux. Walhamdulillahi rabbil alameen.